Alors nous sommes dans cette grande nuit, dans cette sainte nuit de Noël. Noël est un mystère qui révèle Dieu, qui le donne à voir un peu de l'intérieur, c'est-à-dire qui donne à voir son être et c'est un peu sa manière d'agir. Jusqu'à Noël, en fait, Dieu est invisible et donc il a toujours pris des chemins détournés, toujours pris des chemins indirects, cachés, pour se révéler aux hommes. Après Noël, plus besoin de buisson ardent, plus besoin de prophètes. C'est Dieu lui-même qui vient en personne. Noël, c'est Dieu qui craque et qui dit « Je viens moi-même. J'arrête de passer par les autres. Je viens moi-même. » Et ça, c'est inouï. Vous voyez, c'est inouï. Et en fait, nous avons perdu un peu cet étonnement de Noël, parce que chaque année, on fait mémoire. Donc, on a perdu un petit peu cet étonnement de Noël, cet effet de surprise, il n'y en a plus. Et pourtant, on doit faire cet effort pour retrouver un petit peu cette saveur, cette inouïe de Dieu qui se fait homme. Donc, Dieu vient lui-même en personne, mais surtout, peut-être, ce qu'il y a d'important, c'est qu'il vient comme un enfant. C'est peut-être ce qui va nous arrêter ce soir. Il vient comme un enfant, et ça c'est peut-être encore plus inouï. Pourquoi est-ce qu'il vient comme un enfant? J'ai vu à peu près quatre raisons qui nous montrent pourquoi Dieu vient comme un enfant. En fait, il faut se rappeler ce qui se passe après le péché originel. Il y a la plus grande conséquence du péché originel, c'est la peur de Dieu. Adam se cache et on a peur de Dieu. Et Dieu, il est tout puissant. On a peut-être des raisons d'avoir peur de Dieu. Peut-être que notre péché, comme Adam, il fait qu'on a peur de Dieu et qu'on a envie plutôt de se cacher de son regard. Même si c'est un Père qui est tendre, qui est miséricordieux. Voilà. Quelque part en nous, il y a un peu une peur de Dieu. Et quand il vient ici comme un enfant, eh ben on se dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir peur d'un enfant? Comment est-ce qu'on peut avoir peur d'un petit bébé? Donc il vient comme un enfant, première raison, pour qu'on ne soit pas effrayé. La première chose que dit Dieu quand il apparaît, la première chose que disent les anges quand ils apparaissent, ça vaut pour la Bible, ça vaut aussi pour les apparitions encore actuelles, la première chose qu'on entend, c'est « n'ayez pas peur ». Et donc l'enfant Jésus, c'est le « n'ayez pas peur du Père ».« N'ayez pas peur de moi ». Je suis tout puissant, d'accord, mais je suis tout enfant maintenant. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qui dit enfant dit famille. Qui dit enfant dit famille. La famille qui est une réalité un peu chahutée, c'est pour ça que Noël est là aussi pour nous rappeler, et puis dimanche prochain on aura la fête de la Sainte Famille pour nous rappeler ce fondement, ce socle de tout homme et de toute femme, la famille. Donc qui dit enfant dit famille, et on voit en fait que cette naissance, c'est un événement très familial, très intime. Ce n'était pas une place pour eux dans la salle commune. C'est-à-dire que ce n'est pas une place convenable. Pour un accouchement, on se met en retrait, on se met dans l'intimité. La salle commune, c'est là où tout le monde est. Donc on se met à l'abri des regards. Et donc ce n'est pas une place pour eux dans la salle commune. Alors ils se retirent pour l'accouchement, et puis finalement il y a très peu de témoins de cette naissance. Il y a Marie, il y a Joseph, il y a les bergers. Alors les bergers, ils sont combien? Ils sont peut-être entre 5 et 10, on va dire. On va croire que c'est un beau troupeau, donc 5-10 bergers, et puis il y aura bientôt les trois mages, et puis c'est tout. Tout au plus, une quinzaine de personnes. Donc c'est un événement très intime, avec très peu de témoins, et pourtant c'est un événement qui va toucher en fait l'univers entier, qui va changer la face du monde. Cet événement universel, en fait, c'est Dieu lui-même qui vient toucher notre humanité, qui vient la prendre. Et parce qu'il prend notre humanité, il vient toucher toutes nos humanités. Il y a une phrase lumineuse du Concile Vatican II qui dit ceci: par son incarnation, le Christ s'est en quelque sorte uni à tout homme. À tout homme, qu'il soit baptisé ou pas. Il s'est uni à tout homme parce qu'il a pris l'humanité. Et quand il a pris l'humanité, il a touché toutes les réalités humaines, y compris la famille. Et on voit troisième raison de la venue de Dieu comme un enfant, que en fait Dieu il vient pour changer le monde, il vient pour changer nos cœurs. Alors il va pas le faire à coup de grandes réformes, de grandes révolutions, à grands coups d'éclat. Il vient le faire très humblement, en prenant notre humanité, en acceptant de vivre toute une vie humaine, d'en accepter toutes les lenteurs, toutes les fatigues. Voilà, on peut se rappeler combien il a marché, combien il a été fatigué, combien il a eu faim, combien il a eu soif. L'épisode de la Samaritaine nous le rappelle. J'ai soif. Et sur la croix, il le dira encore. Donc il choisit en fait de nous sauver, non pas de l'extérieur, ça Dieu aurait très bien pu le faire. Il choisit de nous sauver de l'intérieur, de toucher chacune des parcelles de notre humanité. Et en fait, il faut comprendre qu'avec Jésus, si on a choisi de décompter les années à partir de sa naissance, c'est qu'il vient bouleverser le monde. Il y a un avant et un après Jésus. Il nous fait passer dans un autre monde. Il nous fait passer de l'Ancien au Nouveau, notamment de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et ça ne se fait pas en un instant. Ça se fait durant toute la vie de Jésus. C'est toute la vie de Jésus, toute sa durée, toute sa vie humaine, qui est un passage de l'Ancien au Nouveau. Donc ça veut dire deux choses pour nous. S'il vient prendre toutes les lenteurs de la vie humaine, c'est qu'il faut avoir beaucoup de miséricorde pour nos lenteurs et beaucoup de miséricorde pour les lenteurs de nos proches, de nos amis, de notre conjoint, de nos enfants, etc. Beaucoup de miséricorde, parce que c'est justement ce que Dieu vient prendre à travers son incarnation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être que si Jésus se fait bébé, c'est qu'il accepte la croissance. Et donc avec lui, quand il nous dit, quand il nous dira plus tard, quand il prêchera, « Devenez comme des enfants », ça veut dire accepter d'être en croissance. Accepter de vivre cette croissance du nouveau-né. Accepter d'être en croissance dans votre vie spirituelle, dans votre vie humaine. Accepter d'évoluer, de changer. Il y a une grande plasticité, il y a une grande... voyez, les enfants sont quelquefois comme des éponges. Ils prennent, ils ont soif, ils veulent savoir, ils posent des questions. Et bien ça, c'est peut-être un signe qu'on a accepté d'être en croissance. Ça, c'était la troisième raison. La quatrième, c'est je ne suis pas un grand expert des enfants, en tout cas des petits bébés. Voilà, il y a des parents qui s'aventurent à me les confier. Voilà, j'y arrive hein, à peu près. Mais ce que je sais, c'est que, en fait, quand un enfant pleure, quand un enfant crie, c'est qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui. C'est jamais trop sans raison. Voilà, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Et donc, si Jésus vient comme un enfant, comme un petit bébé qui va crier, dans un monde où finalement il n'y a plus de place pour Dieu, il n'y a plus de temps à consacrer à Dieu, il n'y a plus tellement la place pour Dieu. Ça vaut pas seulement pour le monde, mais ça vaut aussi peut-être pour quelquefois dans notre propre vie. Hein. Des fois on ne laisse pas vraiment la place, la vraie place de Dieu, qui est la première. Et quand on ne laisse pas cette place-là, eh bien, il y a un cri de Dieu qui retentit. L'enfant Jésus, il vient pour qu'on s'occupe de lui. Et en fait, l'enfant Jésus, c'est le cri du Père pour nous dire « Mais occupez-vous de moi, donnez-moi à manger, faites-moi une place chez vous. » Ça, c'est le cri du Père quand l'enfant Jésus vient. Et alors bien sûr, quand il crie, ben, on s'occupe de lui. Et c'est ce que, justement, fait Marie dans l'Évangile. En fait, on s'arrête sur les détails de ce qu'elle fait à l'enfant Jésus. Elle s'occupe de son enfant, elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Voilà, on s'arrête sur les détails des gestes de Marie. Et en fait, ces détails-là, ils vont être tellement importants que ça va être le signe qui va être donné au berger. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. On répète. Et comme on n'a tellement pas compris, demain matin, vous pouvez revenir à la messe de 7h30. On aura la suite de l'évangile avec les bergers qui vont arriver. Ils vont arriver à la crèche. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Il faut le répéter 3 fois pour dire, c'est tellement banal, c'est tellement anecdotique. Un bébé qui est emmitouflé, qui est couché dans son berceau, où tout va bien. C'est tellement banal qu'il faut le répéter 3 fois pour dire, c'est ça le signe de la présence de Dieu parmi nous. C'est ça le signe d'une mère qui s'est penchée sur son enfant et qui s'occupe de lui, qui fait des gestes qui vont être rappelés plus tard. Voyez les gestes de Joseph d'Arimathie, qui va s'occuper non pas du corps nouveau-né de Jésus, mais qui va s'occuper du corps mort de Jésus sur la croix. Il l'enveloppa d'un linceul et le posa dans le sépulcre. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Il l'enveloppa d'un linceul et le posa dans le sépulcre. Et c'est exactement les gestes que je referai comme prêtre tout à l'heure pour préparer l'autel, pour recevoir non plus le corps du nouveau-né, non plus le corps mort de Jésus, mais le corps eucharistique. Je déplierai les linges, j'aurai préparé les linges, j'aurai préparé le pain et j'aurai exposé le pain. C'est un peu, vous voyez, la mangeoire, c'est pas un berceau qui est mis vers le bas. Donc Marie ne pose pas son enfant vers le bas. Marie l'expose. C'est la première adoration eucharistique. Le verbe grec le dit très bien, c'est une montée vers le haut. Et en fait, les mangeoires étaient suspendues au plafond. Donc Marie expose son enfant pour une première adoration eucharistique, comme tout à l'heure j'exposerai le Saint-Sacrement quand je prononcerai les paroles de la consécration. Et quelle mère qui s'occupe de son enfant pour l'endormir ne lui chanterait pas une berceuse? Alors j'ai prévu pour vous ce soir, non pas pour vous endormir, mais pour vous faire méditer une petite berceuse que je ne vais pas chanter, mais qui sera accompagnée de la musique. C'est la berceuse de la Mère Dieu, de la poétesse Marie-Noël. Marie-Noël est une poétesse du siècle dernier. Elle a perdu son frère un lendemain de Noël, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Marie-Noël. Et on voit qu'elle est tourmentée. Elle l'appelle « Mon Dieu que je n'aime pas ». Et pourtant elle l'aime, et pourtant elle lui a donné sa vie. Voici cette petite berceuse de la Mère Dieu. « Mon Dieu qui dormait faible entre mes bras, mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat, j'adore en mes mains et berce étonnée la merveille ô Dieu que m'avait donnée. De fils, ô mon Dieu, je n'en avais pas, vierge que je suis en cet humble état. Quelle joie en fleur de moi serait née, mais vous, tout-puissant, me l'avez donnée. Que rendrais-je à vous, moi sur qui tomba, votre grâce, ô Dieu, je souris tout bas. Car j'avais aussi, petite et bornée, j'avais une grâce et vous l'ai donnée. De bouche, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas, pour parler aux gens perdus d'ici-bas, ta bouche de lait vers mon sein tournée, ô mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée. De main, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas, pour guérir du doigt leur pauvre corps là, ta main, bouton clos, rose encore jeûnée, ô mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée. De chair, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas, pour rompre avec eux le pain du repas, ta chair au printemps de moi façonnée, ô mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée. De mort, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas, pour sauver le monde, ô douleur là-bas, ta mort d'homme un soir noir abandonné. Mon petit, c'est moi qui te l'ai donné.